C'est l'heure de la messe à Tarragone, une petite ville de l'actuelle Catalogne. En ce début de XIIIe siècle, la cathédrale de la ville regorge d'activités et de visiteurs. Les bâtiments attenant à la cathédrale, en particulier, hébergent plusieurs dizaines de chanoines. Ils y mènent une vie quasiment monastique, mais participent aux offices publics dans la cathédrale, aux côtés des paroissiens. Comme chaque jour, à l'heure de la messe, ils quittent leur cellule et rejoignent le cloître, un espace qui leur est réservé et qui relie leur lieu de vie au cœur de la cathédrale. À chaque pas sous les arches majestueuses de ce lieu richement décoré, les chanoines peuvent admirer des motifs floraux plus raffinés les uns que les autres. Mais l'élément de décoration le plus intrigant est situé au niveau de la porte qui donne sur l'église. C'est un chapiteau sculpté sur quatre faces. En passant devant, les chanoines peuvent y voir d'abord, sur la première face, les trois rois mages et leurs chevaux, puis, sur la face suivante, l'un des mages, venu de la face précédente, dépose une offrande devant la Vierge à l'enfant. Un détail est réservé aux chanoines les plus observateurs. Sur la première face, les mages portent des éperons, signe qu'ils viennent de descendre de leur monture. Sur la deuxième face, en revanche, le mage n'en porte plus. Vous écoutez La Recherche à l'œuvre, le podcast de l'Institut national d'histoire de l'art. Je m'appelle Anne-Cécile Genre et à chaque épisode, des chercheuses et chercheurs partagent avec moi leurs travaux, leurs découvertes, leurs questions et parfois leurs doutes sur le sujet qui les passionne.
Ici, je suis devant un portail d'église. Mais il faut avoir à l'idée à quoi servait cette porte. Parce qu'on ne décore pas un portail tel que celui-ci, donc qui n'est pas visible par le laïc, comme on décorerait un portail qui donnerait sur la place du marché et qui serait vu par tout le monde. Là, c'est un portail pour des gens qui sauront le lire. Et c'est sans doute pour ça qu'il a ce genre de petits détails. Surtout qu'on est dans un cloître. Un cloître, c'est un espace qui est dédié à la méditation. On déambule et on voit des images. Et imaginez quelqu'un qui vit toute sa vie dans ce genre d'établissement, il va les voir toute sa vie. Il va les regarder avec le regard que nous n'avons plus aujourd'hui.
Mathieu Beau est chercheur en histoire de l'art, spécialiste des images du Moyen-Âge, et en particulier des représentations des rois mages.
Même quelqu'un qui a un degré zéro de culture religieuse, quelqu'un qui n'aurait aucune notion de ce que c'est que le christianisme, a déjà vu des rois mages. Ne serait-ce que pour vendre des chocolats ou des forfaits mobiles, il en a vu. Et pour moi, les rois mages, c'est un motif qui est déjà sorti de son univers biblique et chrétien, comme le sont Adam et Ève.
Tout le monde croit connaître les rois mages, ces trois rois venus d'Orient, qui suivent une étoile jusqu'à l'étable où vient de naître Jésus, le Fils de Dieu selon la religion chrétienne. Ils sont indissociables de la symbolique de la crèche et sont célébrés dans toutes les boulangeries françaises lors de la fête de l'Épiphanie. Pourtant, leur histoire est plus compliquée qu'il n'y paraît.
J'ai commencé à me renseigner et je suis tombé dans une littérature qui parlait beaucoup de légendes. Et il y a une profusion, et c'est fascinant en soi et on peut vite tomber dedans, hein. C'est une profusion de textes de partout dans le bassin méditerranéen, dans le Proche-Orient, d'Égypte, d'Éthiopie, des textes qui vous parlent des mages, de manière absolument fabuleuse. Certains textes vont vous expliquer que les mages ont reçu les présents directement d'Adam, qui lui-même, quand il a été exclu du paradis, avait repris des trésors du paradis, les avait enfouis, les avait transmis à des castes religieuses, et qui se serait retrouvé en Iran, peut-être, dans les mains des mages, qui conservaient jusqu'à ce que le signal arrive, une étoile, et qu'ils ont compris qu'il fallait ramener les cadeaux du paradis aux dieux qui étaient venus sur Terre.
À l'époque de l'écriture de ces textes, les images pourtant racontent une histoire différente.
Je regardais mes images, et moi je voyais quoi ? Je voyais trois rois à cheval, avec des éperons, avec des couronnes. Et je me suis dit, mais ça ne colle pas. ça ne colle pas. Moi, je n'ai pas des Iraniens sous les yeux, je n'ai pas des gens qui habitent au plus proche du paradis terrestre dans un Orient qu'on ne comprend pas. Non, 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 j'ai des rois du XIIe siècle. Et c'est ça que j'ai voulu comprendre.
Mathieu Beau choisit de concentrer son travail sur cette période du XIIe siècle.
J'ai travaillé sur une période que personne n'avait travaillé, parce que c'est là que nos rois mages sont les moins flamboyants. C'est là qu'ils sont tout à fait banals. Alors que, évidemment, quand vous voyez la Palla Strozzi, qui est un retable qui est aux offices de Florence, et que vous voyez ces mages fastueusement habillés avec des couronnes, de la feuille d'or, des brocarts, des richesses qui viennent d'Orient, et évidemment, bah, là, ça intéresse beaucoup plus. Vous avez quelque chose de beaucoup plus brillant. Les miens sont un peu fades à côté. Mais après, ça c'est intéressant, mon chapiteau de Tarragone, je vois mon premier mage qui enlève son éperon. Vous regardez la Palla Strozzi et vous voyez quoi ? Vous voyez le dernier mage, le plus jeune, qui est en train de se faire enlever ses éperons par un assistant. Et là, j'étais assez content, j'étais aux offices et je me dis, ah bah voilà, un motif que j'ai identifié 250 ans plus tôt. Et je le retrouve dans de la peinture italienne. Il y a des fondamentaux qui se sont transmis.
Pour étudier la représentation des rois mages, Mathieu Beau a d'abord constitué un corpus de toutes les images répertoriées des rois mages, plus de 600 sculptures et enluminures en Europe et autour de la Méditerranée. Puis il a restreint son périmètre d'étude à 240 images monumentales, c'est-à-dire ornant des monuments, datant du XIe et XIIe siècle en Europe.
Ce qui sautait aux yeux, c'est que pour les œuvres les plus anciennes, j'avais devant les yeux trois personnages assez rigides, exactement les mêmes. Même tête, même physique, même vêtements. Et les œuvres sur lesquelles moi je souhaitais travailler, qui étaient des œuvres du XIIe siècle, je voyais des personnages différents les uns des autres, et surtout un rythme dans leur gestuelle, notamment un premier roi mage qui s'agenouille, ou qui enlève sa couronne, ou qui s'incline, un deuxième qui montre l'étoile, et qui le montre au troisième, qui lui répond.
Pour comprendre la raison de cette évolution, Mathieu Beau se tourne non plus vers les images, mais vers les textes.
C'est assez varié, ça peut être des commentaires sur un livre biblique, ça peut être une homélie, c'est-à-dire le discours que pouvait prononcer un clerc durant l'office, ça peut être des lettres, ces gens s'échangent beaucoup de lettres, donc dans ces lettres on peut avoir des informations. Comme ce sont surtout des clercs qui écrivent, ils ne savent pas écrire sans faire des références bibliques. On peut avoir un clerc qui écrit pour qu'un roi intervienne pour le secours de l'un de ses frères qui a des problèmes avec un seigneur local. Et là, il va utiliser quoi ? Il va utiliser la figure d'Hérode. Attention, mon ami est comme le Christ menacé par Hérode. Et là, on trouve une information sur Hérode.
Hérode, roi de Jérusalem, aurait appris par les rois mages la naissance du Christ et y aurait vu une menace pour son pouvoir. Il aurait ensuite ordonné qu'on tue tous les nouveau-nés du territoire. Sur le chapiteau de Tarragone, il est représenté sur la face opposée à celle de la Nativité, donc visible par les chanoines qui ressortent de l'église. Au XIIe siècle, il est ainsi souvent présent aux côtés des rois mages, à la fois dans les images et dans les textes.
Moi, c'est plutôt ma manière de travailler. J'essaye de comprendre l'empreinte d'un sujet dans l'imaginaire. Mes images ne suffisent pas à comprendre ça. Il faut croiser d'autres sources. Qu'est-ce qui est dit dans un texte que l'on retrouve effectivement dans l'image et qu'est-ce qui est dit dans l'image qui n'apparaît dans aucun texte ? Et souvent, quand vous n'avez pas la connexion entre les deux, c'est que l'image propose de dire d'une autre manière ce qui a peut-être été dit dans un texte. Par exemple, les commentaires bibliques sur les mages, assez anciens, ces commentateurs vont dire que les rois mages ont offert de l'or pour adorer le roi, de la myrrhe pour adorer l'homme mortel, qui est en fait une essence qui permet d'embaumer les cadavres, et de l'encens pour adorer le dieu, puisque l'encens est ce qu'on brûle pour honorer les dieux. Mais nos premières images vont en effet nous montrer des mages qui apportent des lingots d'or, des petites boulettes d'encens, et des petites fioles de myrrhe. Enfin, en tout cas, on arrive à reconnaître qu'il y a une différence entre les offrandes. Plus tard, ça n'apparaît plus. Parce que c'est quelque chose qui doit être tellement su que ce n'est même plus la peine de le montrer. Pourtant, le commentaire reste. Ces personnes continuent de répéter ça tout le temps. Jusqu'au XIIe siècle, ils répètent ça tout le temps. Sur le chapiteau de Tarragone, par exemple, ce qui va compter le plus, c'est le voyage des mages. Donc, on va accorder beaucoup plus d'importance aux chevaux des mages.
Et dans les mains, ils ont quoi ?
Ils ont des petits vases précieux, ouvragés, mais ce sont les mêmes. Impossible de savoir ce qu'il y a dedans.
Mais pour Mathieu Beau, l'étude des textes ne suffit pas à décrypter les œuvres du Moyen-Âge. Rien ne remplace leur étude en situation pour appréhender leur emplacement au sein du bâtiment.
Lorsque j'ai découvert ce chapiteau, lorsque je l'ai vu in situ, pour la première fois, je l'avais vu sur photo mais qui était de mauvaise qualité, j'ai pu tourner autour de mon chapiteau. Je me suis rendu compte que mon premier mage, en fait, était à grande partie masqué, à moitié masqué par la colonne. C'est-à-dire qu'il passe derrière la colonne. C'est assez classique. Le premier roi mage est toujours en train de s'approcher ou de passer un seuil qui est figuré de mille façons. Et ce que j'ai pu voir in situ, c'est qu'en fait, mon premier mage répartit ses deux pieds de chaque côté de la colonne. Il est en train de faire un pas à travers ce seuil. Et on remarque, en regardant bien, et parce que c'est un chapiteau qui est très fin, encore dans un marbre très fin, et qui est complètement intact, on remarque qu'il porte son éperon sur son pied qui est en retrait du seuil, et lorsque l'on regarde son pied qui touche le sol sur lequel se trouve la Vierge à l'enfant, c'est-à-dire sur l'autre face, on remarque qu'il n'a pas son éperon. Ce qui veut dire qu'en signe de respect, ce roi mage est en train de se dépouiller de ses attributs de classe supérieure, on va dire, et qu'il rentre, qu'il va poser ce pied-là qui vient de l'extérieur, il va le poser sur un sol qui n'a pas la même qualité que avant la colonne. Ce qui veut dire qu'il rentre dans un espace sacré. Exactement comme qui passerait du cloître devant ce chapiteau rentrerait dans le cœur de l'église, dans un espace sacré, dans lequel il doit montrer des signes de respect. Il doit changer sa personne parce qu'il rentre dans un espace plus sacré.
Mathieu Beau en tire la conclusion qu'une partie du message de l'œuvre est liée à son emplacement. Notre chapiteau, en l'occurrence, surmonte le trumeau de la porte reliant le cloître à l'église, c'est-à-dire son pilier central. Il est donc fort probable que les chanoines passaient d'un côté pour entrer et de l'autre pour sortir.
Qui entrait du cloître pour rentrer dans l'église, voyait les rois mages. Et il voyait aussi la nativité. Il ne voyait pas forcément Hérode, puisqu'il fallait se retourner pour voir Hérode. Mais qui sortait de l'église pour revenir dans le cloître ? Là, c'est Hérode qui se présentait à celui qui sortait. Et on a en fait un espace de circulation qui est assez logique. Lorsque l'on ressort, on doit se souvenir que les tentations du monde extérieur sont là. D'où la nécessité de mettre cette figure-là qui rappelle que la tentation est toujours présente.
Cette intuition, le médiéviste va en chercher la confirmation dans les textes.
Il y a un texte d'un clerc, Julien de Vézelay, qui prononce un discours devant les novices qui viennent d'entrer au monastère. Et il leur donne l'exemple des rois mages. Et il leur dit, voyez, ces rois mages qui sont venus de très loin, qui ont souffert d'un grand voyage, qui ont été torturés par la faim, par le froid, qui ont affronté un roi machiavélique. Ils ont enduré toutes ces souffrances pour adorer un petit enfant. Et il va leur dire, vous qui êtes en adoration devant ce Christ, vous bâillez, vous vous grattez, vous vous plaignez d'avoir faim, pourquoi vous ne prenez pas exemple sur ces personnages ? Et je crois que les images racontent ça. Elles sont riches d'enseignements, et c'est ce que le fidèle voit dans ces images.
Par ce mélange d'études de textes sacrés et d'observation de la situation des œuvres, Mathieu Beau parvient aussi à dater l'apparition de la couronne sur la tête de ceux qui, jusqu'au Xe siècle, ne sont que de simples magiciens. Puis, à partir du XIIe siècle, la différenciation entre les trois mages, avec un homme âgé, un homme d'âge moyen et un plus jeune, souvent à la peau noire.
Il se trouve qu'en fait, nos commentateurs bibliques ont déjà, dès le 7e siècle peut-être, envisagé l'idée qu'un des mages pouvait venir d'Éthiopie. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien l'Éthiopie, on ne sait pas où ça se trouve. C'est une contrée merveilleuse avec des dragons, des chimères. Voilà, on ne connaît pas, donc ça n'a pas d'intérêt de mettre un mage noir. Plus tard, lorsqu'on connaît mieux, qu'on a une meilleure connaissance encyclopédique de ces contrées-là, eh ben, si on veut que notre christianisme reste universel, il faut montrer ces peuples pour ce qu'ils sont, avec les connaissances ethnographiques qu'on a. Et donc là, le mage noir devient cohérent. Il devient cohérent et souvent il va remplacer le mage jeune.
Et les noms qu'on connaît aujourd'hui, Gaspard, Melchior et Balthazar?
Sur les noms, ça, à la fin du XIIe siècle, on commence à trouver les noms. Mais c'est difficile parce qu'ils changent. Ce n'est pas toujours les mêmes noms. Ça n'a pas vraiment de logique. Ça demande des compétences linguistiques que je n'ai pas en langue ancienne. Et pour une raison qui m'échappe encore, les noms que l'on connaît aujourd'hui vont se fixer. Je cherche le schéma. Je cherche le motif. Je regarde un film, par exemple, et je cherche le motif. Pourquoi ce personnage qui est en train de faire quelque chose que j'ai vu mille fois dans mille films, pourquoi j'ai toujours compris ce qu'il voulait faire? On ne fabrique pas des œuvres d'art pour qu'elles ne soient pas comprises. Si vous regardez un film muet des années 20 et que vous n'êtes pas passionné par les films muets des années 20, vous allez vous endormir. Vous n'allez pas avoir les codes de lecture. C'est une œuvre qui est un peu loin de vous. Elle a été faite pour des gens qui vivaient dans une société un peu différente. Le temps n'était pas le même. Bah, je crois que c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a 800 ans de distance entre ces œuvres et nous. Et ça demande, c'est pas simplement une petite question de goût, là, qui change. C'est vraiment une représentation du monde qui change intégralement. Et je pense que c'est pour ça que le Moyen-Âge m'a intéressé. Ça demandait un certain effort d'aller chercher ce que l'œuvre avait à dire.
Mathieu Beau réalise la distance qui le sépare de ses sujets d'études quand il passe plusieurs mois à Vérone, en Italie. La ville est connue pour servir de décor à la romance de Roméo et Juliette. Mais elle regorge aussi de trésors pour un médiéviste comme Mathieu Beau. Notamment son imposante bibliothèque capitulaire, une des plus anciennes bibliothèques d'Europe, qui abrite des ouvrages ecclésiastiques uniques au monde.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à changer de manière de travailler. La cathédrale de Vérone est donc vraiment dans la ville ancienne, et juste à côté, vous avez la bibliothèque capitulaire. Je travaillais sur ce monument, c'est-à-dire que j'allais l'observer le matin, je le regardais, j'allais à la bibliothèque capitulaire, je travaillais sur des manuscrits qui, pour beaucoup, étaient à Vérone depuis très longtemps, et je ressortais, je revoyais ma façade. Et à chaque fois, chaque jour, je la voyais un peu différemment. C'est une façade sur laquelle vous avez des griffons à l'entrée. Vous avez des griffons qui tiennent des colonnes. Et je voyais des enfants jouer à cheval sur ces griffons. Et je me suis dit, mais depuis combien de temps les enfants de cette ville font du cheval sur les griffons? Parce qu'ils sont usés, ils sont très usés sur la partie supérieure. C'est comme ça que je me suis dit, en fait, je suis en train d'entrer dans vraiment l'histoire d'un lieu. Je suis dans la bibliothèque qui était déjà là à l'époque où la cathédrale était neuve. Je consulte des manuscrits qui datent de l'époque de ma cathédrale. Et au bout de 3 mois, à force de voir la même façade, vous commencez vraiment à la comprendre dans le détail. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut étudier ces œuvres avec autant d'attention. Parce que quand on voit la même œuvre pendant toute une vie, ça devient une œuvre familière de cette cité. Donc voilà, c'est pour ça qu'après je suis allé plutôt dans le local, parce que cette durée, toute cette culture locale, qui peut se trouver sur une œuvre publique, ça m'a intéressé.
Désormais, Mathieu Beau ne travaille plus sur un corpus d'images, mais sur la spatialité des œuvres au sein d'un même lieu. Il étudie en particulier la ville de Vérone, où les rois mages sont présents sur le tympan de la cathédrale.
Et la façade ressemble beaucoup à une autre façade un peu plus loin, l'abbatiale dans laquelle il y a les reliques du saint patron de la ville. Et il se trouve que le tympan, c'est exactement la même composition. Sauf que cette fois, j'ai le peuple de la cité qui se réunit autour du saint patron. Et je commence un peu à comprendre que bah, y a peut-être dans la ville italienne, à ce moment-là, une manière de se penser comme une entité autonome.
Mais il y a un détail sur le tympan de la cathédrale qui reste un mystère pour le chercheur malgré toutes ces années, à se mettre dans la peau de nos ancêtres d'il y a 800 ans.
Disons que j'ai un problème, en fait. Il y a une scène que j'arrive pas à identifier et il me manque quasiment que ça. Donc, sur le tympan, il y a une Vierge à l'enfant. Et sur l'arc qui est un petit peu au-dessus du tympan, j'ai un personnage qui, vraiment, très vraisemblablement, j'ai fait des zooms, j'ai regardé attentivement, est en train de montrer sa bouche et semble récupérer quelque chose de son derrière. Il est nu et il semble bien montrer le parcours de la nourriture en montrant les deux orifices de son propre corps. Alors évidemment, je peux essayer de raccorder ça avec quelques acrobaties en me disant, bon, le corps du pêcheur qui se nourrit de nourriture terrestre. N'empêche que c'est bizarre, il me faudrait un peu plus que ça. Il me manque quelque chose qui me validerait le pourquoi de cette image pas très très loin d'une Vierge à l'enfant, ce qui est quand même très étrange.
En 2022, Mathieu Beau a publié un ouvrage aux éditions de la Sorbonne intitulé « Ces rois mages venus d'Occident ». Il y expose toute la complexité de ses découvertes sur l'imaginaire féodal par l'étude des images des rois mages. Ce podcast est produit par l'Institut National d'Histoire de l'Art en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez le partager autour de vous et nous laisser des étoiles ou des commentaires. Merci pour votre écoute.